wonder about you. Are you raising or watching?
La dispute cinéma. Arne Laporte.
Cette émission est préparée par Aïssa Tundoy, Lucille Como, Boris Pinault et Sarah Dion. Prise de son assurée ce soir par Philippe Mercher, Laurent Binder, Philippe Thibault, réalisation Thomas Beau. Et autour de moi ce soir, pour notre retour en direct du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, où nous sommes tous les vendredis désormais, Lucille Como, Florence Colombani et Charlotte Garçon. Nous allons parler ensemble de Solos Point Baltimore de Matt Porterfield, Scheherazade, Jean-Bernard Marlin. Il y aura un coup de cœur de Florence Colombani. Sur quoi ? Suspense. Ah, vous alliez le dire, hein, Florence, vous alliez manger le morceau. Eh bien non, on va attendre un petit peu. Quel sera le sujet du petit salon de Lucille Como ? Vous le donneriez comment ?
Une impression de déjà vu.
Ah, ouais, là c'est assez mystérieux encore. Vous verrez tout à l'heure de quoi il s'agit. Boris Pinault est là, qui va surveiller les fils à Twitter et Facebook de l'émission pour donner entendre vos commentaires. Et puis il y aura évidemment des cadeaux à gagner grâce au jeu de la dispute ce soir, des invitations pour aller voir le documentaire en salle Hitler contre Picasso et les autres, l'obsession nazie pour l'art. C'est lundi et mardi au cinéma. Nous ouvrons cette dispute cinéma avec un film sorti sur les écrans il y a 10 jours, Solos Point, Baltimore, de Matt Porterfield, cinéaste natif de Baltimore, ville où se situait déjà l'action de ses précédents films, le formidable Putty Hill et le mélodramatique I Used to Be Darker. Dans ce nouveau film, après un séjour en prison, on va suivre Keith, 24 ans, des yeux très très bleus, de retour chez son père dans son quartier de Solos Point, mais quelles sont les perspectives pour lui?
You've got to go back to school. That's the only chance you have. You're not too old. You can start again. You can pull yourself out of it, which I think you're on the way to doing, and try to figure out some plan for your life. Or you can go right back into it.
How long have you been out?
Just got done 9 months on detention.
You need work.
Who let the dog out?
Remember your family, dog. We was there for you on the inside. We here for you on the outside.
Yeah, I know.
This ain't no buffet. You don't just dip in and dip out.
You know the problem with you, Keith? You don't want to hear anything that makes you feel guilty.
YGG taking over the whole fucking world, I promise.
How long you lived in this neighborhood?
15 years.
All right, then, well, you should know better. Your father used to work at Bethlehem Steel with my father. This our neighborhood. This ain't up top.
What do you want me to do? Take it easy on you? Holding your hand?
If he broke into my house, I'm gonna have to press charges.
Well, I don't feel safe. I feel like I have to get a restraining order.
Don't do that, please. Think about his position here. I mean, what are the cops gonna do, really?
Solos Point, Baltimore, et c'est Charlotte Garçon qui est encore en train de prendre des notes, qui ouvre cette dispute, Charlotte.
Oui, on l'entendait, Bethlehem Steel, c'est effectivement un quartier, alors c'était une usine, c'était un grand site sidérurgique, et évidemment ce côté désaffecté des lieux, c'est quelque chose qui donne sa marque, je trouve, beaucoup au film. Donc le film est à la fois un film de personnages avant tout, un portrait si on veut, et en même temps un portrait des lieux. Et cet aspect-là, comme souvent dans le cinéma de Matt Porterfield, est, je trouve, très réussi. Je n'ai pas vu son tout premier.
Moi non plus. Mais oui. Est-ce qu'il est sorti en France ou pas?
Je me demande.
Parce qu'on a vu tous les autres, disons-le.
Oui, en tout cas, je trouve moi, je n'avais pas trouvé son précédent I Used to Be Darker mélodramatique, comme vous le disiez. Il me semble cependant que là, il y a une ouverture vers un travail davantage avec des acteurs. Donc, il y a un espoir, disons, de fiction, de nœud dramatique, d'efficacité dramatique, mais qui est, et c'est ce que j'ai apprécié dans le film, en fait, à chaque fois, délibérément aplani. Je dirais pas aplati. mais aplanie. C'est-à-dire qu'il y a effectivement tous les dangers qu'on peut imaginer, qui sont quand même des clichés scénariques, à savoir quand on sort de prison, est-ce qu'on va replonger ou s'en sortir. Et effectivement, c'est l'un des sujets du film, mais là où il les aplanit, je trouve, de belle manière, c'est qu'on voit bien que ce qui intéresse ce cinéaste, c'est à chaque fois, c'est la façon dont les relations entre les gens ont été modifiées. Alors, modifiées par le long séjour en prison, sans doute par l'acte dont on n'a pas connaissance qui est le crime qu'a commis ce garçon, mais aussi par énormément de petits détails du quotidien et qui sont extrêmement bien rendus. En gros, on comprend dès le début qu'il y a quelque chose de pire que d'être en prison, c'est d'être assigné à résidence avec son père. Donc c'est le père qui étant le type le plus gentil du monde, joué par Jim Belushi.
Oui, c'est une surprise de voir un acteur connu dans un film de Matt Porterfield qui filme toujours des visages inconnus sur grand écran. C'est déjà cette première étrangeté de ce film.
Oui, mais justement, ça contribue à cette idée un peu déceptive qui est diffuse comme ça dans tout le film. Il ne joue pas, c'est pas pour être joué au malin avec le spectateur, mais c'est à chaque fois pour nuancer. Et effectivement, il y a de la tension, il y a des tensions très très fortes parce que, comme on entend dans la bande-annonce, il ne s'agit pas de laisser sortir les potes avec qui on était en prison. Il y a un côté mafieux et il y a un côté systématique du film puisque sa structure narrative, en gros, c'est une sorte de tournée. Il va chez le voisin, il va essayer de retrouver différentes personnes, soit de sa famille, soit de son entourage. En gros, un peu pour les taper aussi, mais pas seulement. Et donc, ça pourrait être très systématique. Et il me semble que...
Taper de l'argent, pas taper physiquement.
Les deux.
Bon, enfin, la plupart, c'est quand même pour... parce qu'il a un intérêt, on va dire.
Il faut bien avancer avec quelque chose, avec une toute petite mise. Mais en réalité, tout ça, à chaque fois, est, on dirait en anglais, diffused, donc dédramatisé comme ça, aplani. Et c'est plutôt ce que j'ai apprécié dans le film, avec aussi l'utilisation de la lumière, justement diffuse, elle aussi, avec quasiment certains plans qui m'ont fait penser soit au travail de Jeff Wall, même une scène qui me reste en tête avec la grand-mère à contre-jour et un rideau orange comme ça. Donc il y a des...
Jeff Wall, grand photographe canadien qui fait des reconstitutions, qui fait des vraies mises en scène, et généralement pour des images de très très grand format, qui amènent toujours une étrangeté particulière.
Oui, et c'est évidemment la qualité atmosphérique du film qui réussit. Après, si on attend véritablement une sorte d'efficacité ou de passage dans le genre, le film de gangster, etc., je pense que c'est une fausse piste et on sera forcément déçu.
Lucille Como, je crois que c'était le premier film de Matt Porterfield que vous voyez, ce Solar's Point.
Oui, qui a assez bien vieilli dans ma tête, parce que quand je l'ai vu, en effet, il a quelque chose de tellement plat, et pas au sens négatif du terme, que on se dit, bon, c'est une petite chose, on va pas en garder grand-chose. Et finalement, en effet, il reste quelque chose d'une douceur et d'une temporalité très particulière. Vous parliez de ce parcours que fait le personnage dans la ville, et c'est vrai que du début à la fin... On pourrait croire même que c'est en une seule journée que tout ça se passe et que c'est comme un jeu avec des pistes et puis des endroits où il faut passer entre le matin, enfin plutôt le midi parce qu'il se lève fort tard ce jeune homme, et la nuit quand le film s'achève. Moi je trouve que le film est beau dans cette douceur-là et dans la mélancolie qui l'infuse. Je le trouve aussi parfois un peu trop joli avec peut-être des tics d'images qui sont maintenant la marque d'un cinéma américain indépendant, par exemple le fait d'assortir à ce point-là les yeux en effet magnifiquement bleus de l'acteur principal et son t-shirt. C'est des détails, mais en fait pour moi ça fait trop signe vers un type de cinéma et je trouve que ça rend un peu artificiel parfois les personnages. Par contre, ce qui est très beau en effet, c'est la manière de mettre en récit cette Amérique moyenne. Tout y est moyen, et c'est aussi pour ça que le film est moyen, à tous les sens du terme. On voit une économie parallèle qui se construit et qui n'est pas nécessairement l'économie de la drogue ou des gangsters, la plus violente qu'on puisse imaginer. C'est, tout le monde est un peu à la marge, tout le monde se débrouille avec ce qu'on peut. Il y a une jeune fille qui on ne sait pas si elle se prostitue, en tout cas elle est dans un club de striptease, mais bon, elle fait des études à côté, donc c'est pour payer ses études.
Et des passes à côté, oui.
Voilà, on ne sait pas exactement quelle est la nature de leur relation.
Charlotte et moi, on a l'air d'être
savoir. Moi, je trouve que justement, on ne sait pas trop. Il y a un passage que j'aime beaucoup, qui, je pense, dit beaucoup du film, justement, dans sa manière d'esquiver le genre de la rédemption ou de la replongée, on va dire, d'un homme qui sort de prison. C'est un moment où, en fait, il s'est inscrit à des cours de climatisation, le héros, et il arrive en retard à son énième cours, et le type lui dit, bah non, en fait, là, c'est trop tard, vous pouvez plus rentrer, puis c'est fichu pour cette année. Donc, il se rend compte qu'il va pas pouvoir se réinsérer comme ça. Et là, hop, directement, on le voit débarquer chez le gangster local, en gros, rappeur du coin. On se dit, ah, bon, là, c'est un peu systématique quand même, voilà, le type va replonger immédiatement. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que le mec lui propose, non pas de... Bon, il lui propose de dealer, mais... Pas seulement, il lui propose surtout de dessiner la pochette de son prochain album. Je trouve ça dit beaucoup du film, une espèce d'évitement de la violence, de l'à-coup, par une forme de douceur qui, à mon avis, est un peu trop jolie parfois, ou un peu de l'ordre de l'illusion, un peu l'ordre peut-être aussi de l'évitement politique, de l'analyse aussi. Mais j'ai quand même aimé ce film, je le trouve assez beau.
Alors, on revient pas sur la question politique, peut-être que Florence Colombani va le faire avant moi, sur Solace Point.
Oui, Baltimore, où se passe ce film, c'est un territoire ultra quadrillé par la fiction, puisque c'est le théâtre de The Wire, qui reste une des surécoutes en français, une des séries les plus importantes des 20 dernières années, et qui, en 5 saisons, déclinait toutes les dimensions de la ville, avec à chaque fois un angle d'attaque, les journalistes, la mafia des docks, les enfants, etc. Et c'est assez étonnant de voir Sellers Point, un Baltimore qu'on ne reconnaît absolument pas, alors qu'on croit, à cause de The Wire, le maîtriser très bien. Ce qu'on retrouve de The Wire, c'est la tension entre les noirs et les blancs, qui est montrée de façon assez fine dans le film. Alors en effet, toujours avec ce côté impressionniste et ces points de suspension entre les scènes, un refus d'articuler ce qui pourrait à l'évidence faire drame. Par exemple, le fait que l'ex-grand amour du protagoniste est une jeune femme noire, alors que tous ces liens mafieux, c'est du côté des nationalistes blancs néo-nazis, plus ou moins. Enfin, on comprend bien qu'ils sont dans cette tendance-là. Alors ça, c'est très suggéré, mais c'est jamais vraiment développé. En même temps, ça apporte quand même une texture et une richesse au film qu'il n'aurait pas sinon. Et je trouve que la beauté, en effet, de ce côté impressionniste, ça vous prend par moments. Enfin, il y a de longs moments dans le film où on ressent pas tellement grand chose, et puis tout à coup, il y a une scène qui vous saisit à la gorge, et on se rend compte qu'il y a une construction, en fait, plus tenue qu'il n'y paraît. J'ai beaucoup aimé la scène de poker vers la fin entre le père et le fils, et bon, des amis qui sont là pour faire tampon entre eux. Mais la scène de poker qui est chargée de toute une histoire émotionnelle à l'évidence difficile, mais qui passe très vite et qui réussit avec une sorte de brutalité à vous prendre à la gorge. Et Jim Belushi, en effet, est très étonnant, là, assez loin de l'acteur qu'on connaît.
Alors, ce qui est vrai, c'est que finalement, Porterfield, il fait des films assez différent, enfin, ce que l'on a pu voir en France, et que celui-ci est peut-être pas mon préféré, même si moi aussi vieillit bien dans mon esprit, comme vous le disiez, Lucille Como. Le côté déceptif, moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi. Ça fait partie des plaisirs qu'on peut avoir, comme en musique, un morceau de techno qui a une longue intro, en fait, ça ne part jamais, c'est pas une intro, c'est le morceau. Vous voyez, tout d'un coup, on ne va pas sauter sur le dance floor, mais il y a ce côté-là dans ce film, comme vous l'évoquiez, il y a un moment une rencontre avec un chef de gang qui est un suprématiste blanc, une sorte de gourou foireux, mais ça l'embraye sur rien, parce qu'il était le jeune héros, il est juste là pour lui demander quelque chose, une chose particulière. Bon, ça donne ce que ça donne, mais ça va pas embrayer sur comment s'appelait le film avec Edward Norton sur les
American Historics.
On n'est pas là-dessus, et Matt Porterfield il donne en effet une vision de Baltimore. Alors, il n'est pas le seul cinéaste à faire ça, mais j'ai l'impression qu'au fil des années, il documente cette ville d'une façon extrêmement précieuse, sur les marges, sur quelque chose du rêve américain complètement fracassé, broyé, parce que, pareil, il y a juste une toute petite évocation de Solar Point, l'usine, avec une nostalgie, comme on peut connaître en France, les mineurs qui parlent de leur amour et de leur fierté d'avoir été mineurs. Là, il y a quelque chose aussi, c'est dans la partie de poker d'ailleurs aussi, où on se raconte qu'on était un ancien de Solar Point et que c'était vraiment la chose la plus importante. Mais tout ça est donné, il y a beaucoup d'informations données très légèrement. Lucille Como ?
Oui, moi, ce que je reproche un peu au film, c'est d'utiliser vraiment le personnage comme un biais, parce que c'est ce qu'on dit, dans le fond, depuis le début, et de le faire circuler comme ça entre des tas de milieux, parce qu'en effet, il touche à la fois aux milieux les plus marginaux et un petit peu à la bourgeoisie, avec son ex-petite amie et puis une nouvelle qui rencontre sur le passage. Et... échoue à l'inverse, je trouve ça très simpliste, les moments où on a un peu accès à son intériorité. Je pense notamment à une scène qui est vraiment fatale et tout le temps ratée dans les films, où un personnage regarde une photo de son, là en l'occurrence de son enfance, de sa toute petite enfance, et où on comprend que sa mère est décédée. Et ce seul petit moment où on a un petit peu accès à ses émotions, à son intériorité, je les trouve assez manquées par rapport au reste, où il y a vraiment une charge émotionnelle. Et du coup, ça crée un grand déséquilibre entre ce personnage principal et les personnages secondaires que parfois on ne voit très peu et qui sont beaucoup plus justes. Et notamment bon, le personnage du père, moi je le trouve incroyable et je pense que ça tient à la fois à la performance de James Belushi et à l'écriture de ce personnage qui, en une première scène où on sent voilà, il a acheté plein de petites boîtes de conserve parce que c'était pas très cher et il fait très attention à sa voiture, à la manière dont il manipule les objets dans la cuisine, en quelques petits gestes se campe un personnage qui est infiniment, je trouve, plus intéressant que le personnage de Keith, que le personnage principal.
Charlotte Garçon, vous voulez intervenir ?
Mais c'est là où je pense que le travail sur l'image, et d'ailleurs il a changé de chef opérateur, c'est maintenant Shabir Kirchner, dont j'ai noté le nom, parce que il y a ce plan éloigné qui fait écho à la scène un peu ratée, effectivement, où il ouvre cette boîte qui est une boîte qui a conservé son ex quand il était en prison, donc la fameuse boîte de souvenirs d'enfance, et qui est un plan de très loin, de lui allant au cimetière sur la tombe de sa mère. Et justement, on voit bien que il ne cherche pas à se rapprocher d'une intériorité psychologique avec un gros plan. C'est le contraire, effectivement. Il joue l'éloignement spatial, il joue le plan de très grand ensemble, et donc il me semble que c'est pas une charge émotionnelle, effectivement, qu'il recherche en tant que cinéaste, mais plutôt une forme de capillarité. Et donc moi j'ai aimé que les personnages secondaires, voire plus que secondaires, non pas un côté pittoresque de Trogne, pas du tout, mais une importance, vraiment une espèce de dignité, d'intégrité très bien esquissée, même dans des
scènes courtes.
Sa
grand-mère est extraordinaire.
Voilà, dans des scènes courtes. Donc, ils peuvent être un tout petit peu caricaturaux dans ce qu'ils proposent moralement, mais en même temps, pour moi, la scène, par exemple, la plus forte du film n'est pas avec ce personnage principal. Donc, ça ne me gêne pas que ce personnage principal soit un biais. C'est une scène entre le père et l'ex-petite amie. On n'en parle pas parce qu'elle est plutôt vers la fin, mais là encore, c'est pas dans le forçage et dans l'intensité émotionnelle que ce cinéaste travaille, me semble-t-il.
Lucille, une réponse ?
Ah non, mais je suis tout à fait d'accord, mais c'est vrai que du coup, on s'interroge un petit peu sur l'utilité du personnage, et peut-être il aurait fallu assumer totalement le fait de l'utiliser et ne pas nous distiller des petites relations avec le chien, la mère.
Non, mais je sais pas, ça amène une tension quand même. On se dit, non, mais il va pas faire ça quand même. Enfin, je sais pas, moi j'étais avec ce garçon et je le suivais et il était important pour moi. Enfin...
Mais il est aussi un vide, me semble-t-il, qui est un vide qui fait écho au fait que les idéologies n'accrochent plus. D'où le discours, mais en fait complètement débile et risible, du gourou de gang.
Scène très drôle.
Oui, elle est vraiment hilarante, cette scène, parce qu'on voit qu'il n'y a plus moyen d'avoir la moindre idéologie qui tienne. Qu'elle soit nazie, qu'elle soit spiritualiste, enfin un peu de tout comme ce qu'il propose. En réalité, ça ne tient absolument pas.
C'est drôle, en même temps, c'est extrêmement déprimant quand même. Moi, cette scène-là m'a un peu désespérée.
C'est ça qui est bien, c'est les deux à la fois. Laurence Colombani, vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, mais d'où le paysage désindustrialisé, l'abandon un peu de la ville qu'on voit à l'écran, qui a quelque chose de vraiment poétique, parce que ça rentre en résonance avec le personnage. Dans ce sens, il a vraiment réussi son effet de rime. Et je pense que le film, dans son côté... presque qui refuse le polar, parce qu'il y a tous les ingrédients du polar, gagne en force poétique.
Boris Pinot, un commentaire sur les réseaux sociaux sur ce film de Matt Porterfield?
Oui, via Twitter, un commentaire de Sunday Girl qui écrit sur un film intéressant mais qui manque un peu de rythme et qui recycle les thèmes vus ces derniers temps sur l'Amérique des déshérités. L'acteur principal dont le personnage est en quête de réinsertion reste toutefois convaincant.
Ouais. Ah, cette absence de rythme, nous on y voit un autre rythme. Il y a une forme d'arythmie, on pourrait dire ça comme ça. Avec ces déplacements aussi qui sont importants et cette démarche tout à fait improbable aussi de jeune Keith qu'on voit dans ce film de Matt Porterfield. Allez, on va continuer à avancer dans cette émission, rappelant que Solar Spawn Baltimore est sorti sur les écrans il y a une dizaine de jours. Guettez-le, il n'y a pas beaucoup d'écrans qui passent ce film, donc il faut aller le chercher. À suivre dans la dispute, chez Razane, Jean-Bernard Marlin, le petit salon de Lucille Comeau et le coup de cœur de Florence Colombani.
La dispute, France Culture. Arne Laporte.
Passons à présent à un premier film qui fait beaucoup parler de lui, la preuve encore ce soir à la dispute, chez Razane, Jean-Bernard Marlin et son réalisateur. Il a été présenté à la Semaine de la Critique à Cannes, c'est un premier film qui a reçu le prix Jean Vigo, qui s'intéresse à un autre garçon, Zachary, qui sort lui aussi, mais d'un centre de détention pour mineurs, puisqu'il a 17 ans. Ça se passe à Marseille, il va tomber sous le charme de Scheherazade, qui est aussi jeune que lui et qui est prostituée. On se doute bien que cette histoire ne va pas être composée que d'amour et d'eau fraîche.
Libérate, libérate, libérate.
À bientôt.
Comment ça, à bientôt?
On va au foyer, allez bien.
Alors, les mecs, avec 4 ans, de quoi?
Alors, ah, on
ah, c'est pour toi, ça, frère.
Ah, arrête, c'est une grosse cougar, elle.
Cadeau. Elle.
Attends, mais je crois que je la connais, elle. Tu t'appelles Scheherazade ou pas?
Ouais, je m'appelle Scheherazade.
Tu te rappelles pas?
Pourquoi les éducateurs, ils ont écrit que t'étais carrément partie pendant une journée? Si on t'éloigne pas, on va retomber dans les mêmes difficultés. Ouais, en fait, t'es comme les autres, je respecte pas les femmes.
Oulala, là là, t'essayes de me la faire à l'envers ou quoi?
Il y a 50 l'amour et 30 la pluie. Tu es avec moi, s'il te plaît?
Tu es devenue folle, gros. J'ai jamais fait ça, moi.
250 ou rien?
Y a pas de monnaie, les gars. Vas-y, ne touche pas comme ça, tu as touché plein de garçons.
J'ai cru que tu rentrais en prison, tu allais comprendre un peu. Mon frère, tu es sorti que dalle, encore plus con qu'avant.
T'as vu ce terrain? Maintenant, c'est à nous.
Quoi, tu es amoureux, dis la vérité.
J'ai de délire ou quoi?
Eh ben ça va, ça me dire ça te fait rien si je vais.
Tu viens chez moi, tu fais le bordel pour une pute, gros. Qu'est-ce que tu es devenu fou, quoi, ça?
C'est qui dans tout ça?
Tu vas témoigner contre tes amis?
Tu vas pas faire ça quand même, ça connaît pas de balance, non?
Jamais, je t'ai dit, jamais t'agis comme un homme, toi, en vrai. Juste ça, mets-toi à sa place. Sois là pour elle.
Scheherazade, sortie sur les écrans ce mercredi, et cette fois c'est Lucille Comeau qui commence à nous en parler.
Oui, alors Scheherazade, c'est un titre très ambitieux pour un film, on peut avoir peur parce que c'est une promesse de récit, de suspense. En l'occurrence, c'est un film qui tient quand même assez bien cette promesse-là. Pour le coup, c'est vraiment un film très dense avec beaucoup d'à-coups. C'est drôle de parler de ces deux films parce qu'il y a quand même quelque chose de comparable, en effet, avec ces deux personnages qui sortent l'un de prison et l'autre de centre de détention pour mineurs. Là, en l'occurrence, c'est un film extrêmement serré, dense. Il y a à la fois, il y a plusieurs genres et plusieurs composantes. Il y a une histoire d'amour donc entre Zachary et Scheherazade. Il y a du drame familial puisque Zachary est toujours en lien avec sa mère et un beau-père qui le rejette tous les deux. Il y a le polar, pour le coup vraiment le film de voyou, hein, la question de la rédemption ou du replongeon. Moi c'est un film qui m'a beaucoup émue. Et qui, je pense, réussit quelque chose d'assez rare, c'est à bien tenir un entre-deux, entre deux risques, enfin, ou deux genres, ça dépend comment on considère les genres en question, enfin, c'est pas vraiment des genres, mais entre un naturalisme qu'on pourrait attendre sur un sujet comme ça, voilà, sur les quartiers difficiles de Marseille, un film de banlieue français, et la romance, le côté totalement abstrait et complètement déconnecté du réel, j'ai l'impression qu'on est sur une voie médiane, que le film tient à peu près, je trouve, jusqu'à la fin. Et je pense que c'est assez bien représenté par le choix de l'acteur principal, qui est quand même très impressionnant, qui incarne Zachary, qui est très indéterminé dans son physique, dans la manière dont il a d'évoluer au départ. Il a quelque chose, on peut imaginer qu'il est d'origine maghrébine, gitane, dans la manière dont il parle, on ne sait jamais vraiment qui il est, d'où il vient. Et de la même manière, c'est drôle parce que je lisais un peu les critiques, tout le monde parle de Marseille, du film marseillais. Moi, je ne savais pas du tout quoi, ce que j'allais voir. J'ai mis du temps à imaginer que ça pouvait être à Marseille que se déroulait ce film, parce que vraiment, on se fiche absolument finalement de la ville. Il y a très peu de plans larges sur les espaces.
Oui, ça joue pas du tout on la carte
joue,
marseillaise.
Voilà. Ça
on
se
voit
joue
le tramway,
à l'échelle de la ruelle,
si connaît, oui.
D'un coin de rue, d'une petite chambre d'hôtel miteux, d'une cage d'escalier. Il y a très très peu de plans larges. On voit absolument pas ce qui se passe autour de ces personnages. Voilà, bon, je reviendrai peut-être après sur les limites parce que je trouve que c'est un peu une opération d'équilibriste et que parfois ça penche un peu trop d'un côté ou d'un autre, ou sur des personnages ou sur des motifs, et qu'on retombe un peu dans des travers naturalistes qui me plaisent à moi moins.
Florence Colombani sur Scheherazade.
Oui, alors malgré le titre, c'est plus le portrait de Zachary quand même et de ce que Scheherazade déclenche chez lui. Et à la fois, c'est un portrait très beau, très intense, quelque chose de vraiment vibrant de la jeunesse qui passe dans le film, je trouve. Ça m'a quand même gênée que Zachary soit à ce point le centre et que Scheherazade, qui par ailleurs est jouée par une actrice très douée qu'on a envie de voir davantage.
Alors c'est Kenza Fortas et c'est Dylan Robert qui joue Zachary.
Voilà, reste à ce point au second plan, enfin comme un instrument finalement pour la rédemption ou non, enfin je ne vais pas dévoiler la fin, mais de Zachary. Il y a quelque chose de très programmatique dans le film. On l'a entendu dans la bande-annonce, quand il sort de son centre de détention pour mineurs, quelqu'un lui dit « à bientôt ». Et donc on comprend bien que le chemin possible, c'est une boucle et qu'on se retrouvera à nouveau dans un centre de détention à la fin du film. Et ce programme est perturbé par l'irruption de l'amour, et c'est vraiment là, à mon sens, que le film a sa force. C'est que dans la peinture de cette relation amoureuse, il y a une vraie fraîcheur et une vraie pureté, alors qu'on est dans la rue, on est dans avec les proxénètes, on est dans la prostitution, dans quelque chose de plutôt trash. La peinture des sentiments est vraiment belle. Je trouve que tout ce côté un peu peinture d'un milieu social, etc. C'est réussi, mais moi je trouve plutôt dans le naturalisme quand même. C'est plutôt le style visuel qui est en rupture avec ça, avec un côté impressionniste, une caméra à l'épaule très tremblée, parfois des effets de lumière. Par exemple, Scheherazade s'endort avec un petit lapin lumineux qui, à un moment, cette lumière envahit l'écran. Bon, je trouve que ce parti pris entre le naturalisme de l'histoire et le traitement hyper stylisé, quand même, visuellement, moi, me gêne un peu. J'y vois une sorte d'artificialité qui me fait parfois sortir du film. Mais ça reste un film, un premier film à voir, absolument.
Charlotte Garçon.
Alors moi, j'ai pas du tout eu ces réserves, c'est-à-dire que je me suis vraiment laissée emporter, mais plus ce qui m'a émue, outre l'histoire de ce garçon et de leur amour, c'est que j'ai eu l'impression d'être au cœur d'un travail. C'est-à-dire que je n'ai pas encore vu les courts-métrages précédents de Jean-Bernard Marlin, mais j'ai eu tout à coup l'impression de rencontrer un cinéaste très très intense, très ardent, et qui est intense dans son travail avec les acteurs. Alors après, en regardant, on s'aperçoit que effectivement, ce ne sont pas des acteurs, qu'ils ont vécu des situations très proches de celles qu'ils vivent dans le film. Et on se dit, mais comment fait-il pour arriver à les faire travailler de cette manière? Et ça n'est pas du tout une sorte de vol un peu documentaire d'une matière justement naturaliste qui leur échapperait, pas du tout. C'est véritablement un travail et de répétition et de texte aussi. Et la difficulté de ce travail, j'y pensais même pendant le film, enfin sans en connaître tout à fait la genèse. Et puis ensuite, je me suis un petit peu documentée parce que j'étais absolument soufflée de la capacité que peut avoir ce metteur en scène à faire travailler et à avoir cet amour, vraiment cet amour du jeu d'acteur, y compris et surtout avec des noms professionnels. Alors, vous disiez que comme c'est intemporel, ça pourrait se passer partout. Oui et non, parce qu'on l'entend quand même dans la bande-annonce, il y a une façon de parler. Et ce parler-là, pour moi, il est effectivement pas du tout pittoresque, de même qu'il n'y a pas de paysage pittoresque de Marseille, que connaît très bien Marlin, puisqu'il est originaire de cette ville. C'est pas du tout ce qu'il occupe, effectivement. Ni le paysage au sens sociologique. C'est vraiment une matière. Moi, j'ai eu l'impression qu'il prenait vraiment à bras le corps aussi une façon de parler, qu'il aimait cette façon de parler, et que son enjeu, c'était de faire qu'il ne la tue pas en la portant à l'écran. Et c'est un énorme enjeu, parce que c'est un meurtre de faire ça. C'est vraiment une trahison terrible quand on prend des gens qui ont vécu quasiment ça qu'on stylise trop. Et moi, j'ai pas du tout eu cette impression, et j'ai surtout été très impressionnée par la scène complètement différente de tout ce qu'on a évoqué, qui est une scène assez théâtrale, qui arrive dans la dernière partie du film au tribunal. Donc on est dans un contexte judiciaire, on est vraiment au tribunal et quelque chose se passe dans la dramaturgie que j'ai trouvé extraordinaire et fort, et d'autant plus fort qu'on ne s'attend pas du tout à ça. C'est-à-dire qu'on est avant dans un régime effectivement plutôt documentariste, tirant, étant tiraillé par des genres, et puis tout à coup on se trouve dans un espace absolument théâtral, en même temps quasiment documentaire, on se croit chez Depardon dans un tribunal, et en même temps tous les enjeux narratifs, dramatiques du film se dénouent à ce moment-là et advient une parole qui est entièrement cohérente avec toute l'histoire d'amour du film. C'est pas du tout artificiel, c'est pas autre chose, c'est pas une sortie du romanesque, c'est en même temps le romanesque, mais qui se joue dans un tribunal. Donc ça, j'ai trouvé ça, cette partie-là, par exemple, du film, pour moi, c'est, je sais pas, si on... Voilà, les moments de cinéma de l'année. Voilà. Enfin, y a des choses qui vous restent. Et ça, je trouve que c'est très osé. Et ça dépasse de très loin le, disons, la vague naturaliste ou réaliste à la française dont vous parliez encore la semaine dernière avec Sauvage. Pareil, portrait de jeune homme en perdition, prostitution, pas prostitution. Voilà, pour moi, ça, c'est, on est complètement au-delà de ça.
Alors moi, je suis vraiment sur la ligne Charlotte Garçon, donc je ne vais pas répéter tout ce que vous avez formidablement dit, mais c'est vrai que c'est le débat qui se poursuit effectivement après Sauvage la semaine passée, dont on a parlé ici. Mais pour moi, j'ai eu vraiment aussi le sentiment de rencontrer un cinéaste. Et en fait, je me suis dit, et c'est pas pour jeter de l'huile sur le feu, que ce que faisait Jean-Bernard Marlin aujourd'hui, c'est ce que Abdelatif Kechiche n'arrive plus à faire. Pour moi, dans ses derniers films, je ne vais pas jeter de l'huile sur le feu, mais vous
non,
pourrez
non,
réagir
pas,
quand même.
Mais
je sais bien. Mais oui, en tout cas, j'ai trouvé ce que j'avais vu quand j'ai vu les premiers films de Kechiche, tout d'un coup, cette façon de me mettre sur un écran des gens qui ne jouent pas, mais qui ont l'air d'être, ce qui est quand même peut-être ce qu'on peut aussi attendre parfois du cinéma, tout en étant ancré absolument dans des histoires singulières, dans des territoires. Alors oui, il faut peut-être bien connaître Marseille pour reconnaître la ville. Évidemment, c'est ancré dans Marseille, mais ça pourrait être à Lille avec un accent ch'ti et ça ne changerait rien, ce serait un autre parler. Mais les personnages ont une vérité, une épaisseur et effectivement, sans en divulgâcher beaucoup plus, c'est quand même une des plus belles déclarations d'amour qu'on ait pu voir au cinéma, me semble-t-il, ces derniers mois, voire années. Lucille Comeau, là, vous opinez quand même.
Oui, moi, je suis surtout vraiment très d'accord avec, ce que vient de dire Charlotte sur la scène de procès qui est vraiment magnifique. Parce
qu'on ne dira pas grand-chose.
Non, mais parce que se confronte justement tout le romanesque, toute la charge romanesque de ce qu'on vient de voir dans les trois quarts de film, de ce qui vient de se passer. Et tout ça se confronte avec toute l'épaisseur, l'ambiguïté, parce que c'est vrai que c'est extrêmement compliqué leur histoire d'amour, parce que bon, ça on peut le dire quand même, ça vient très vite. Lui devient le souteneur de Scheherazade et il continue à avoir une relation amoureuse
à
dans cette relation
défendant,
de travail.
Quasiment.
Oui, c'est compliqué. Donc du coup, tout ça débarque dans une salle extrêmement en effet théâtralisée et hiératique de tribunal et se confronte au regard des juges. Et nous, on arrive, comme les personnages, avec toute cette charge émotionnelle et cette histoire extrêmement compliquée, intriquée de relations, face à ce regard extrêmement froid et incompréhensif des hommes de loi, enfin en l'occurrence c'est des femmes de loi, et ça produit, je trouve, une charge émotionnelle, ce contraste-là, qui est assez inédite. Moi, ça m'a vraiment fait un grand effet aussi.
Et par ailleurs, du coup, Florence Colombani, moi je ne suis pas du tout gêné par les possibles effets, alors que je vois bien, photographiques, de lumière, etc., que je trouve très beau, et je ne vois pas au nom de quoi ça gâcherait quoi que ce soit de la vérité du film.
Non, je dis pas du tout que ça gâche quoi que ce soit.
Non, mais vous étiez, vous
avez
l'air gêné par ces
effets. Non, mais c'est vrai que
cette
tension par moment m'a gênée parce que par moment j'ai trouvé que c'était des effets qui moi me sortaient de. Mais en effet, par exemple, dans la scène du tribunal, j'étais rivée à l'écran. C'est un moment où la caméra d'ailleurs est beaucoup plus fixe et où c'est mise en scène de façon très différente. Non, j'aimerais revenir sur Marseille parce que quand même le film s'ouvre sur des plans de départ d'Algérie. Et d'arriver en France, de passeport tamponné, de service de l'immigration. Donc je ne pense pas que ce soit si peu ancré, finalement. Je pense qu'il cherche quand même, par ces images inaugurales, à nous dire que ces jeunes gens sont les héritiers d'une histoire et d'une histoire complexe, et que même le personnage de la mère incarne une autre génération de cette histoire. Et c'est d'ailleurs un personnage qui prend une envergure presque de femme de film noir à un moment.
De tragédie grecque, enfin.
Voilà.
Il y a quelque chose de cette dimension-là.
Et je trouve que sans appuyer cet élément, il le place quand même au départ pour nous indiquer que son film nous dit quelque chose de Marseille aussi dans cette épaisseur historique.
Non, mais il est ancré là, mais il pourrait tout à fait être ancré ailleurs, ce que je voulais dire, mais il est absolument marseillais, Charlotte Garçon.
Oui, je pense que c'est important de ne pas opposer, disons, le romanesque à la teneur documentaire, parce qu'effectivement, du coup, on raterait quelque chose, et c'est pour ça que je pense que la scène du tribunal nous touche tellement, c'est parce que nous, disons, spectateurs moyens, lambda, ou pire, parisiens, intellectuels, tout ce qu'on veut, finalement, on est...
Pire,
on est...
ça, c'est vrai.
Mais oui, parce qu'on est absolument... C'est, ce qui est déchirant, c'est qu'on ne peut voir ce milieu qu'au cinéma. Et en fait, en les extirpant de ce milieu, en les mettant dans un tribunal, ça leur donne un espace public. Donc c'est peut-être tragique, mais il faut le tribunal dans le film pour que leurs paroles adviennent, même entre eux, et soient entendues par nous. Donc c'est aussi, c'est là où le film est politique. C'est-à-dire qu'il n'y a que le tribunal, finalement, pour nous faire entendre des échos d'une vie qui nous est absolument... étrangère. Et donc, oui, il y a plusieurs Marseilles à l'intérieur de Marseille, mais il n'y a que au tribunal que ça peut communiquer avec, disons, le grand public.
Mais il n'y a que le tribunal, faute d'autres structures ou lieux tiers, c'est ça aussi qui est
le tribunal ou le cinéma. C'est pour ça que moi, je ne pense pas que les gens qui sont au tribunal, donc qui sont la juge, qui est jouée par une avocate d'ailleurs, ou les avocates, sont pas des instances, à mon avis, de censure. C'est presque... Moi, je les ai presque perçus comme des relais du spectateur. Des relais,
pas d'accord, laissez le commentaire.
Oui, c'est-à-dire des écoutes, des points d'écoute. Et bon, bah, certes, c'est dans un espace de tribunal, mais en même temps, c'est une façon pour le public, la société civile, etc., de prendre acte et d'entendre.
Lucie, là.
J'aimerais bien, mais je trouve bien optimiste parce que quand même, elles sont elles simplifient énormément en fait les discours qu'on leur donne à entendre.
Mais il me semble que les personnages veulent qu'on pose certains cadres qui leur offrent aussi une forme d'échappatoire d'un milieu qui a lui-même ses lois et qui sont des lois extrêmement violentes.
Boris Pinault, quelques commentaires sur Scheherazade sur les réseaux.
Oui, alors pour Eloï Besson, tous les défauts et approximations de jeu et de mise en scène font de Scheherazade un film touchant. Dommage quand même qu'ils mettent autant de temps à se lancer. Violette Villard sur Facebook est éblouie. Quelle langue, quelle tendresse, quel visage, tout. Émotion gracieuse et poésie pure pour ces pasoliniens de Marseille. Matinée de l'enfance d'un Léos Carax, lumineux.
Bon, pour Éloi Besson, jeu approximatif, moi je pense qu'il est au contraire, mais c'est ce qu'évoquait Charlotte Garçon tout à l'heure, extrêmement précis, directif. J'ai lu un court entretien donné par Jean-Bernard Marlin qui disait combien il travaillait pour que les mots rentrent et qu'enfin après ils puissent jouer. Alors, c'est pas la méthode Doyon, c'est autre chose parce qu'il n'est pas dans une vampirisation très féconde chez Doyon, mais là c'est vraiment le travail, on le ressent ça, Florence Colombani.
Oui, on ressent aussi qu'il y a un beau regard qui est posé sur ces personnages et sur ces acteurs, enfin sur ces incarnations de ces personnages. C'est là que je trouve le point de comparaison avec Abdelatif Kechiche le plus juste, parce que c'est vrai que c'est dans la beauté du regard et dans la capacité de montrer une lumière intérieure que Jean-Bernard Marlin se révèle absolument un cinéaste.
Charlotte, vous voulez dire un élément, Charlotte Garçon ?
Du coup, vous parliez un petit peu d'effet. C'est vrai que peut-être l'utilisation de la musique baroque par motif, exactement comme chez Pasolini, bon, le côté accatonné du film, était peut-être un tout petit peu appuyé.
C'est son premier long métrage.
Voilà.
Hein.
Voilà. Mais c'est,
rappelons-le
c'est,
encore.
C'était pas absolument nécessaire parce qu'il y a une confiance à faire absolument à ces personnes aussi.
Bon. Vous avez compris qu'on vous recommande très vivement d'aller voir Scheherazade de Jean-Bernard Merlin, sorti mercredi sur les écrans. Le coup de cœur de la dispute est dévolu ce soir à Florence Colombani pour Whitney, non pas un film sur le musée new-yorkais, mais qu'il vous faut bien, mais sur Whitney Houston, un documentaire signé Kevin MacDonald. Qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Vous avez une passion cachée que vous voulez assouvir ce soir et
que je voulais dévoiler,
vous révéler.
Ouais. Whitney Houston, justement, était une chanteuse que je ne connaissais vraiment pas, à part un tube de 1992, I Will Always Love You,
dans à cause
le film,
du film
Bodyguard. Voilà. Je dois dire que je ne la connaissais vraiment pas.
Vous avez vu le film quand même ou pas ?
Même pas.
Vous, la cinéphile, vous, l'américanophile.
Surtout moi, l'adolescente de cette génération. J'aurais dû, mais je ne l'avais pas vu. C'est justement découvrir un personnage dans toutes ses strates et dans toute sa profondeur qui fait le mérite du film de Kevin David MacDonald, dont je rappelle qu'il est le metteur en scène du Dernier Roi d'Écosse, un film qui avait été extrêmement récompensé, sans doute trop d'ailleurs à l'époque, mais surtout un très bon documentariste. Et là, c'est dans cette veine donc qu'il se consacre à Whitney Houston, qui lui-même ne l'intéressait guère, m'a-t-il dit, parce que je l'ai rencontré, parce que sa musique lui paraissait sirupeuse, peu intéressante, jusqu'à ce qu'il se plonge dans l'histoire du personnage. Et alors, ce que j'aimerais raconter, pour vous faire comprendre pourquoi mon enthousiasme, c'est cette scène du 27 janvier 1991, où Whitney Houston chante l'hymne national américain pour ouvrir le Super Bowl, qui est la grand-messe sportive des États-Unis.
L'événement le plus regardé à la télévision chaque année. Hein.
Exactement. Quasiment un milliard de personnes cette année-là voient Whitney Houston chanter cet hymne national américain. Et elle le chante d'une façon qui va non seulement révolutionner la façon dont on le chantera par la suite, mais surtout d'une façon qui va avoir des conséquences politiques. Whitney Houston, qui était la fille d'une choriste d'Aretha Franklin et la cousine de Dionne et Dede Warwick, donc des grandes chanteuses de gospel, apporte cette culture de la musique noire à son interprétation de The Star Spangled Banner, l'hymne américain. Elle ralentit le rythme, donc rapprochant ce chant d'un chant de gospel. Elle est en jogging, elle n'est pas du tout en tenue sexy, elle n'en fait pas une accroche pour le spectateur, et elle l'embellit de petites variations gospel, et c'est complètement électrisant, d'ailleurs ça se regarde sur YouTube, c'est assez incroyable, et c'est surtout le moment qui réconcilie la communauté noire américaine avec ce chant qui jusque-là était vu comme le chant d'une nation militariste et donc chant de l'oppresseur, d'un État qui inflige à cette communauté une oppression permanente. Tout à coup, ça devient un chant, un hymne à la liberté. Et c'est une réconciliation qui dure assez longtemps. Et puis, ces dernières années, on assiste à un nouvel effet autour de cet hymne, puisque vous savez que un des événements politiques majeurs aux États-Unis de ces cinq dernières années, c'est les protestations des footballeurs américains, dont surtout Colin Kaepernick, qui s'agenouillent pendant l'hymne par protestation contre les violences policières contre la communauté noire. Ça fait partie du mouvement Black Lives Matter. Donc ces échos entre l'histoire de Whitney Houston et le contemporain sont assez vertigineux. Et ce ne sont pas les seuls, parce que Whitney Houston était aussi une femme qui avait une sexualité très libre, très fluide, qui était d'abord avec une femme dans sa première jeunesse, et qui a été du coup traitée avec beaucoup d'homophobie, notamment dans sa communauté. Ce qui l'a poussé à se marier avec un sinistre personnage qui s'appelle Bobby Brown et qui précipite sa plongée dans la drogue, etc. Et donc, elle a une sorte de modernité qui tout à coup vous frappe. Et on se demande, quand on voit le film, si en effet, si Beyoncé aurait pu exister sans Whitney Houston. Parce qu'elle est cette créature qui chante de la musique noire qui plaît à tous, qui plaît aux blancs. Et voilà, c'est une superstar.
Ça nous donne envie de voir ce film qui s'appelle tout simplement Whitney.
Ça s'appelle tout simplement Whitney et c'est un documentaire très fort.
De Kevin MacDonald.
France Culture, la dispute. Arne Laporte.
Et la dernière séquence de cette dispute cinéma ce soir, en direct, en public du Bel Air, le bar de la Maison de la Radio, dans lequel nous vous attendons tous les vendredis soirs, c'est le petit salon de Lucille Como. Ce soir, Lucille, il paraît que vous avez la mémoire qui flanche, c'est ça ?
Oui, il y a quelques semaines, j'ai reçu, figurez-vous, une invitation pour aller voir Invasion, le nouveau film de Kyoshi Kurosawa qui sort cette semaine, qui est sorti mercredi. Kyoshi Kurosawa, réalisateur japonais, fort productif ces dernières années, dont les films rencontrent un certain succès en Europe et en France particulièrement. Alors, je lis le résumé, une histoire d'extraterrestres qui prennent forme humaine et envahissent la planète en subtilisant les grands concepts basiques de l'humanité, la famille, la peur, l'amour, etc. J'ai déjà vu ce film il y a peu, me dis-je. Je cherche dans mes notes, je réalise qu'il y a quelques mois est sorti un film intitulé « Avant que nous disparaissions » qui avait exactement le même sujet, même histoire d'extraterrestres et de subtilisation de concepts. Et ce film était réalisé par Kyoshi Kurosawa.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
その代わりに俺が
彼の記憶や知識を引き継いで。
侵略が始まるんですか？
人間の概念を集めてますよね。
ああ、どうだろう。決めるのは僕じゃないし。
悦子さんはどうしてそんなにまでして山際君のことを救おうとするんですか？
彼のことが好きだから。
好き？
Alors c'est lequel celui-là ?
Alors là, c'est un mélange des deux, figurez-vous. Et après investigation, il se trouve en fait que le réalisateur a réalisé deux films différents, à peu près au même moment, à partir d'une même pièce de théâtre. L'un a été tourné pour la télévision, destiné à être diffusé en plusieurs fois comme une série en fait, et le second est un long métrage destiné aux salles de cinéma. Sauf qu'au visionnage des deux films, je me rends compte que la longueur diffère assez peu, 2 heures dans un cas, 2h30 dans l'autre, et que surtout dans ce qu'on nous présente comme un téléfilm, les coupures, les coutures sont quasi invisible, on ne voit absolument pas les épisodes. Alors il y a bien des différences, le casting notamment totalement différent, le rythme, les fonctions des personnages, la manière dont est amenée l'invasion, mais Kiyoshi Kurosawa a quand même réalisé en quelques mois seulement un auto-remake. Alors, quand on s'en penche sur ce cas, on se rend compte que finalement, dans l'histoire du cinéma, ce n'est pas si rare. Nombreux sont les cinéastes qui ont, par exemple, réalisé un long métrage qui est le développement d'un court. Un des exemples les plus souvent cités, c'est celui de Frankenweenie, qui était le premier court métrage animé de Tim Burton, devenu des années et des années après un long avec les mêmes personnages, le même noir et blanc, la même animation, le même récit. Il y a aussi les réalisateurs qui ont refait un film pour profiter d'une révolution technique. Un film muet, par exemple, devient parlant. Un film en noir et blanc devient un film en couleur. Il y a encore les cinéastes qui ne sont pas tout à fait satisfaits d'un premier ouvrage. Hitchcock, par exemple, retourne L'homme qui en savait trop, un film déjà réalisé dans les années 30, alors qu'il est au fait de sa gloire au milieu des années 50, qu'il a alors plus de moyens, plus d'argent à sa disposition pour tourner à sa convenance cette fameuse histoire d'espionnage. Autre et dernier exemple, Michael Haneke réalise Funny Game deux fois. La deuxième fois est adjoint au titre US comme USA. Avec un casting américain, il est ainsi destiné au public outre-Atlantique. Mais je reviens à mon doublon de Kiyoshi Kurosawa, car dans ce cas, il y a très peu de temps entre la réalisation et la diffusion des deux films. Pas de changement de langue, pas de caractéristiques techniques fondamentalement différentes. Un bon sujet donc pour se poser plein de questions, à la fois sur ce qui pousse un cinéaste à refaire le même film, sur ce que ça peut créer comme effet chez le spectateur, mais aussi chez le critique. L'auto-remake ne serait-il pas l'objet parfait pour comprendre ce que le cinéma fait à une histoire ?
Ah, ça s'arrête comme ça ? C'est la question sur laquelle vous nous laissez ? Ça tombe bien, il nous reste que 7 minutes.
L'histoire de la mise en scène en 7 minutes.
Allez, Charlotte Garçon, je vous sens prête à partir là.
Non, mais moi, j'allais faire un petit peu de mauvais esprit en disant que ça fait longtemps que j'ai l'impression que Kiyoshi Kurosawa fait un auto-remake.
Ah oui, bah alors là vous...
Non, mais encore pire, j'aggrave mon cas, tant pis. En fait, la première fois que j'ai vu un film de Kiyoshi Kurosawa, donc c'était Cairo. Mmh.
Cairo, c'est autre chose.
C'est pas du grec, c'est du japonais. J'ai déjà eu, je pense, l'impression qu'il y avait quelque chose de l'ordre du déjà-vu.
C'est une sorte de The Ring, version Kiyoshi Kurosawa.
Oui, je pense que à un moment, dans quelle mesure la part de conscient et d'inconscient, dans quelle mesure ce qu'on appelle la politique des auteurs, vue de la critique très très française, de la tradition critique des années 50, n'est pas quand même un tout petit peu un cache-misère scénaristique aussi, et une façon de finalement de pédaler toujours dans le même dans la même matière, et d'envoyer cette production à l'étranger, dans les festivals, etc., sans tout à fait se remettre en question. Mais là, je vais un peu loin. Je pense que je décale la question esthétique.
Non, mais si, c'est intéressant, parce que la question du scénariste ou pas, enfin, la question de l'auteur d'un film se pose tout à fait, parce que nous, en effet, on a une sorte d'habitude française du réalisateur qui est la même personne que le scénariste. Mais par exemple, Hitchcock, dans le cas de L'homme qui en savait trop, a un autre scénariste pour son deuxième film, et de fait, pour lui, c'est un film totalement différent. Parce que nous, on a plus de mal, je pense, à saisir encore aujourd'hui.
Alors que Funny Games, pour reprendre cet exemple-là, là, c'est très Haneke, puisque c'est vraiment
c'est
exactement le même. Ouais. On pourrait dire, il y a ceux qui font les films des autres, le Psycho de Gus Van Sant, qui reprend alors, de façon fétichiste plan par plan, axe de caméra par axe de caméra, le film d'Hitchcock. Mais là, ce n'est pas un auto-remake. Florence Colombani.
J'ai une question pour Lucille Como. Est-ce qu'il y a un des deux invasions qui diffère un peu de l'autre? Quel est
Ah oui, alors ce n'est pas du tout la même mise en scène, ce n'est pas le même rythme. Par exemple, la manière, le rythme avec, par lequel on apprend que les personnages un peu étranges qui apparaissent au début sont les extraterrestres. Dans Invasion, ça arrive très très tôt, alors que dans Avant que nous disparaissions, ça arrive assez tard dans le film. Donc, ça n'a rien à voir. C'est ça qui est extrêmement drôle. C'est quand même la même action, les mêmes enjeux philosophico-moraux de la fable, parce que c'est vraiment une fable sur l'humanité. Bon, moi, j'ai vraiment pas aimé ces films, hein, par ailleurs. mais amené à des rythmes extrêmement différents, avec des castings différents, avec une manière de jouer un peu série B dans le cas du film télévisé. Mais, par exemple, le film télévisé est filmé avec la même ambition, disons, photographique que le film destiné au grand écran. Donc, c'est vraiment... exactement la même histoire, mais filmée deux fois en deux ans. Même pas, je crois, 18 mois.
Avant de poursuivre, j'ai une suggestion pour vous, Lucille Como. Vous pourriez peut-être aller samedi 22 septembre à 16h au Théâtre de la Ville, à l'espace Pierre Cardin, parce que figurez-vous, France Culture et le Théâtre de la Ville enregistrent, font une fiction radiophonique qui sera enregistrée, La promenade des envahisseurs. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, parce que c'est la pièce de théâtre qui donne naissance à ces nombreux films de Kiyoshi Kurosawa. C'est une entrée libre sur réservation par le site de France Culture pour voir une troisième fois la même histoire. Charlotte Garçon.
C'est un peu du harcèlement. Enfin, je pense que, en fait, la fiction, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le critique hanté par le même film et qu'on va vous faire craquer au bout de plusieurs. Mais lui, ça fait quand même des années que.
Moi, il me fait plutôt craquer, hein, oui, que Kurosawa, je suis plutôt client. Et le fait de faire toujours la même chose, alors c'est un cas particulier, le cinéma, mais il y a quand même beaucoup d'auteurs qui traitent toujours le même sujet. On peut dire que Martin Scorsese il traite pas 36 sujets différents, il les traite de façon différente, mais est-ce qu'on reproche à Patrick Modiano, si on l'aime comme c'est mon cas, d'écrire toujours le même livre, avec beaucoup de guillemets, parce que c'est jamais le même, mais il parle toujours de la même chose. Le cinéma est un cas un peu particulier. Florence Colombani, plus Lucille, comment ?
Je dirais quelqu'un qui pratique vraiment l'auto-remake de façon voilée, mais néanmoins indéniable, c'est Woody Allen, dont par exemple Matchpoint est une sorte de remake de Crimes et Délits. Simplement, il a changé le contexte.
Seulement beaucoup moins bien, même si
voilà,
c'est pas mal.
Évidemment, on a toujours un préféré dans les cas d'auto-remake. Mais c'est vrai que la figure de l'auteur consacrée par la critique française appelle quelque part l'auto-remake. Parce que plus on repère des thèmes et des répétitions, plus on a l'impression d'avoir affaire à un auteur. Et donc plus on pousse aussi l'auteur dans cette direction de la répétition.
Lucille, comment ?
Alors, Charlotte Garçon, vous avez contribué à un livre qui est sorti hier, vraiment au point de l'actualité, sur Léo Maccaret, aux éditions Capricci, coordonnées par Fernando Gonzo. Alors, du coup, il y a un grand film, Refait deux fois, qui d'ailleurs a le même titre en français.
Fait deux fois.
Elle
est Refait deux fois, ça
oui,
ferait
fait
trois.
Deux fois. Fait deux fois. Et c'est drôle, justement, il a le même titre en français, Elle et lui, aux deux dates, mais par contre, pas le même titre en anglais. An Affair to Remember. Alors, qu'est-ce que ça peut dire, justement, de ce mécanisme d'auto-remake ?
Mais pour Maccaret, c'était parce qu'il avait aimé son film. C'est ça qui est beau. C'est assez touchant. C'est-à-dire que souvent, les cinéastes disent « Oui, bon, je l'ai fait. » Enfin, les Américains, on les connaît. Hein. « Ah, c'est moi qui ai fait ça. » Bon, John Ford, ça. Voilà, c'était une panouille. Bon. Et en fait, pas du tout. Maccaret, il a aimé son film d'avant-guerre de 1938-39 avec Charles Boyer et Irene Dunne, magnifique comédien des années 30, et effectivement en noir et blanc. Et puis, parce qu'il y a l'écran large, la couleur, mais aussi parce qu'il y a des comédiens, et notamment Cary Grant, qui apporte avec lui...
Qui change le film aussi, quand même.
Tout, finalement, il apporte quelque chose de burlesque que Maccaret connaît bien de ses années du début du burlesque muet. Donc, il trouve dans Cary Grant une façon aussi de renouveler le film. Mais ce qui est beau, je trouve, c'est qu'on peut aimer ces deux. Je ne sais pas autour de la table qui préfère lequel, mais en fait, on n'a pas du tout. C'est vraiment comme ces deux parents. Enfin, on n'a absolument pas à préférer l'un à l'autre.
Oui, c'est le cas tout à fait à part parce qu'on aime l'un et l'autre. Comment on peut les aimer séparément.
An Affair to Remember, hein, c'est aussi cette mémoire,
cette
ce travail
d'amour
de la mémoire
avec ce premier film.
Bien sûr,
aussi. Lucille Como, pour terminer,
et
attention.
Et à l'inverse, sur le personnage féminin, il me semblait qu'il était plus intéressant dans le premier, parce que peut-être moins dans les carcans du gros cinéma hollywoodien des années 50 que dans le deuxième, mais j'ai pas un souvenir extrêmement précis du deuxième.
Et du Code Hays aussi, ouais. Peut-être, passé par là. Qui rend l'histoire peut-être pas tout à fait la même. On a pas entendu Florence Colombani. Elle est Louis, vous préférez l'un ou l'autre? Louis Boyer, non, Charles Jourdan.
Je préfère le film des années 30.
C'est vrai?
Ouais.
Ah oui, sans
hésiter.
C'est vrai? Ah bon? Bon, moi j'ai toujours un faible pour Cary Grant, mais j'aime infiniment les deux. Alors voyez des films et revoyez-les, voyez Invasion avant que nous disparaissions, allez découvrir la pièce au Théâtre de la Ville et voyez surtout Elle et lui. Ça s'appelle comme ça dans les deux cas en France.
Super d'ailleurs comme titre, hein, pour échanger.
D'accord, bon écoutez, on va demander à Lucille Comeau de trouver un nouveau titre, surtout en tout cas ainsi que se referme le petit salon. Et on va conclure l'émission avec le jeu de la dispute et Sarah Dion qui nous a rejoint d'abord pour nous rappeler la question du jeu d'hier au soir et nous donner sa réponse. Sarah.
En quelle année le musée d'art et d'histoire du judaïsme a-t-il ouvert ses portes ? La réponse était 1998.
Ce soir, nous faisons gagner des places de cinéma pour aller découvrir un documentaire « Hitler contre Picasso et les autres, l'obsession nazie pour l'art ». Ce sera à voir lundi 17 et mardi 18 septembre au cinéma. Quelle est la question, Sarah ?
Quel roman offrant une biographie fictive de la vie d'Adolf Hitler narre son entrée aux Beaux-Arts de Vienne ?
Votre réponse avec vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Toutes les informations à retrouver à cette émission sur notre site franceculture.fr à la page de la dispute. Rendez-vous lundi à 19h pour une dispute consacrée au spectacle vivant. Nous serons en compagnie de Lucille Comeau, Fabienne Pascot et Philippe Chevillier. À notre sommaire, un nouveau petit salon, parce que c'est le petit salon glissant, hein, un jour par semaine. Donc, sauf comme c'était vendredi cette semaine, ce sera lundi la semaine prochaine. Le sujet, est-il encore possible de monter Racine ? Puis nous parlerons du dernier jour du jeûne et l'envol des cigognes, un diptyque signé Simon Apkarian au Théâtre du Soleil et La ménagerie de verre de Tennessee Williams, mise en scène Charlotte Rondelet, c'est au théâtre Poche Montparnasse. Il y aura aussi un coup de cœur signé Fabienne Pascot.